et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ferme, voire violent contre la Corée du Nord, mais ouvert tout de même. C'est en résumé la position de Donald Trump qui s'est exprimé cette nuit devant les parlementaires sud-coréens en demandant à la Corée du Nord de cesser immédiatement son programme nucléaire. Une demande aussitôt refusée par Pyongyang alors que le président américain arrive en ce moment en Chine pour sa première visite dans le pays. C'est la troisième étape de cette longue tournée asiatique et nul doute que le sujet nord-coréen sera encore au menu des discussions. Les précisions depuis Pékin de Dominique André.
L'ambivalence de Donald Trump sur le dossier nord-coréen incite les Chinois à la plus grande prudence. Tout en reconnaissant que des progrès sont faits et qu'il voit certaines choses bouger, le président américain a réaffirmé aussi à Séoul qu'il était prêt à utiliser l'option militaire si nécessaire. Depuis le mois de septembre, la Corée du Nord n'a procédé à aucun essai nucléaire, mais la tension dans la région reste très élevée. La victoire récente de Shinzo Abe au Japon, qui veut réarmer son pays, crée des incertitudes. Le premier ministre japonais a indiqué que le Japon abattrait les missiles nord-coréens si nécessaire. L'expert chinois Che In-rong est inquiet.
Je ne sais pas comment le gouvernement chinois estime la situation en Corée du Nord, mais en tout cas, on voit à travers les déclarations officielles chinoises que l'inquiétude augmente. La possibilité d'une guerre augmente du fait des menaces d'une attaque militaire par les États-Unis. En Chine, en ce moment, on pense que le risque d'une guerre en Corée n'a jamais été aussi fort.
Donald Trump veut persuader Xi Jinping d'être encore plus dur avec la Corée du Nord, qui dépend de la Chine pour les carburants et la nourriture. Mais reste à savoir si la Chine est prête à couper le cordon avec son difficile voisin.
Dominique André, la tournée asiatique de Donald Trump coïncide avec le premier anniversaire de son élection à la présidence américaine, et un an plus tard, sa popularité est au plus bas. En interne, les résultats de récentes élections locales ont plombé son parti également, le Parti républicain. Les élections des gouverneurs de Virginie et du New Jersey, remportées par des démocrates, ont parfois pris l'allure de référendums anti-Trump. En France, les membres du gouvernement se démènent ce matin pour justifier la décision de Nicolas Hulot, décision annoncée hier soir, de revenir sur l'un des engagements majeurs à la fois de la loi sur la transition énergétique de 2015, mais aussi de la campagne d'Emmanuel Macron, la réduction à 50% de la part du nucléaire dans l'électricité française. L'objectif de 2025 est repoussé de 5 voire de 10 ans pour des raisons écologiques, plaide Nicolas Hulot. Cet objectif ferait notamment augmenter la part d'émissions de carbone des réseaux électriques français. Les associations de lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas d'accord. Le réalisateur Jean-Jacques Hano, la chanteuse Shakira, Whirlpool Total, le prince Charles, la liste des personnalités qui pratiquent l'optimisation fiscale à grande échelle, voire la fraude fiscale s'allonge. Les révélations issues des Paradise Papers continuent ce matin. Dossier complet à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Le Louvre, Abu Dhabi, première succursale arabe du musée français, ouvre ses portes aujourd'hui pour une inauguration officielle en grande pompe aux Émirats Arabes Unis. Une très importante délégation française fait le déplacement à 16h, heure de Paris, pour officialiser donc l'ouverture de ce projet vieux de 10 ans, un projet de musée universel qui fera s'entrecroiser les cultures selon ses concepteurs. Son architecte, c'est Jean Nouvel. Coût du bâtiment, près de 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros payés au Louvre pour la conception de ce musée et l'utilisation de la marque Louvre pendant 30 ans. Alors quel intérêt pour le Louvre de prêter ainsi son nom? Les explications d'Isabelle Pasquier.
Avec un Louvre à Abu Dhabi, les Émiriens, avec leur pétrodollar, s'offrent la plus prestigieuse marque de musée. Il y a 10 ans, ça provoquait une fronde qui dénonçait une marchandisation de notre patrimoine. Mais aujourd'hui, place au réalisme économique et à la mondialisation. Premier bénéfice, un rayonnement international. Ensuite, la marque Louvre et l'expertise du Louvre lui rapportent 1 milliard d'euros. Une manne qui vient au secours d'un Louvre obligé de chercher des ressources. Jean-Luc Martinez, le président du Louvre, devant la belle ferronnière de Léonard de Vinci qui a déménagé à Abu Dhabi.
La marque Louvre, c'est 400 millions d'euros sur 30 ans. Avec cet argent, qu'est-ce que nous faisons? Nous améliorons le musée du Louvre à Paris. L'année dernière, c'est grâce à l'argent émirien que nous avons renouvelé les structures d'accueil sous la pyramide. Le pavillon de l'horloge également, ce pavillon central dans lequel nous avons présenté les maquettes, nous présenté les collections, rénové la présentation des ruines du palais, donc le centre d'interprétation Cheikh Zayed, qui porte le nom du fondateur des Émirats Arabes Unis. Tout cela, le public du musée du Louvre voit le bénéfice aujourd'hui de cet accord entre les deux pays uniques.
Enfin, ce Louvre des Sables ultra contemporain propulse le vieux palais du Louvre dans le 21e siècle avec une beauté à couper le souffle.
Le temps de ce jour, il sera froid et principalement nuageux, de faibles pluies également du nord-ouest au centre. Les températures seront comprises ce matin entre 1 et 6 degrés, de 5 à 16 cet après-midi. Ces journaux ont été préparés avec Yacine Bouzard et François-Charles Domergue. Vous retrouverez Antoine Mercier pour le journal de 12h30. Excellente matinée d'ici là sur France Culture.